Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venu. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce vendredi soir, 1er janvier 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. L'Iran est déterminé à traduire Trump en justice pour l'assassinat du général martyr Soleimani, selon le chef du pouvoir judiciaire iranien. La région ne connaîtra pas le calme tant que les Américains seront présents dans cette région, a souligné le président Rouhani. Nous surveillons de près les agissements sionistes, précisé le chef des renseignements yéménites. C'était le principal titre de l'actualité. En voici le journal. Le chef du pouvoir judiciaire iranien, l'ayatollah Ibrahim Raisi, a annoncé l'intention de Téhéran de traduire en justice Donald Trump comme principal responsable de l'assassinat du général martyr Soleimani. S'exprimant en marge d'une réunion à Téhéran avec des responsables chargés du suivi de dossier de l'assassinat du général Soleimani, chef de l'ayatollah Raisi a affirmé que nul n'était à l'abri des poursuites judiciaires. De préciser, Donald Trump avait avoué devant les caméras du monde entier qu'il avait lui-même ordonné l'assassinat du général Soleimani, ce qui fait de lui le principal responsable direct de ce crime. Le général Ghani également a eu un discours vendredi à Téhéran, lui, en s'adressant aux États-Unis à son président sortant, Donald Trump, a souligné « Vous avez cherché plus de 30 ans à tuer Soleimani al-Mouandis, mais vous avez ouvert la voie à tous les peuples libres du monde pour venger votre acte odieux », a-t-il souligné. Nous allons revenir sur ce sujet dans notre commentaire politique. Les États-Unis ont subi de lourdes pertes après l'assassinat brutal du commandant de la force Quds et du corps des gardiens de la révolution islamique. Le lieutenant général Qassem Soleimani a souligné le président iranien Hassan Rouhani, soulignant que les nations de la région chasseraient les forces américaines de la région pour assurer la paix et le calme dans cette région. Dans de commentaires après avoir inauguré jeudi matin un certain nombre de projets menés par le ministère iranien de l'énergie, le président rouhanien a déclaré que l'ennemi avait commis une erreur en assassinant le général Soleimani et avait subi une perte après l'attaque brutale de l'assassinat. Il a déclaré que l'assassinat du haut commandant iranien avait renforcé la résistance manifestée par le peuple et la jeunesse en Iran et dans la région et qu'il garantirait désormais la résistance et l'indépendance régionale avec plus d'espoir. Le ministre iranien des Affaires étrangères a mis en garde contre un complot américain visant à inventer un prétexte pour déclencher une guerre dans la région. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a réagi au déploiement de bombardiers américains B-52 au Moyen-Orient, citant des informations en provenance d'Irak selon lesquelles les États-Unis cherchent un prétexte pour lancer une guerre. L'Iran ne cherche pas la guerre, mais il défendra ouvertement et directement son peuple et sa sécurité et ses intérêts vitaux, a souligné le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif. Un porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé a salué la production du vaccin contre le coronavirus par des chercheurs iraniens et a indiqué que l'organisation attend avec impatience de voir les résultats des essais cliniques pour cette grande réalisation iranienne. Le porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé a déclaré dans une interview avec le correspondant de l'IRNA à Londres que le succès des scientifiques iraniens est une indication du fait qu'il est possible de produire et de développer un vaccin et des outils pour lutter contre l'épidémie du coronavirus. Le chef des renseignements yéménite, le général Abdallah Yehya Hakem, a salué les sacrifices du peuple yéménite après 6 ans d'agression et de blocus imposés par la coalition d'agression dirigée par l'Arabie saoudite. Lors d'un discours à l'occasion de la journée du martyr organisée à Sanaa, le général Hakem a affirmé qu'ils sont en état d'alerte maximale au niveau militaire, sécuritaire et moral afin d'affronter les agresseurs et leurs mercenaires ainsi que l'entité sioniste. Nous surveillons de près les agissements sionistes et leur planification maléfique et ce conformément aux directives du leader de la révolution. Abdul Malik al-Houssi a-t-il souligné encore. Et en Syrie, les forces d'occupation américaines ont exécuté un enfant de 12 ans, à Shadadi, dans la banlieue de Hasaka, en tirant sur lui de sang-froid à quelques mètres. Des sources ont fait savoir aux correspondants de Sanaa à Hasaka que les forces d'occupation américaines stationnées dans la base illégale de la ville de Shadadi, près du quartier Al-Tawassouya, ont délibérément tiré sur un enfant qui jouait près de leur zone de concentration, toujours selon l'agence d'information syrienne Sanaa. C'est la fin de notre journal d'information. Merci infiniment de l'avoir suivi. Restez avec nous, nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. La riposte à l'assassinat du général martyr Soleimani pourrait avoir lieu à l'intérieur des États-Unis, a souligné le commandant en chef de la force Quds du corps des gardiens de la révolution islamique, le général Qahani, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. Lors d'une cérémonie tenue ce vendredi 1er janvier au matin à l'université de Téhéran pour commémorer le premier anniversaire de l'assassinat du général général martyr Soleimani, le général de deux corps d'armée de Ismail Ghani, le commandant de la force Quds corps des gardiens de la révolution islamique, a déclaré que le martyr Soleimani était le héros de la nation iranienne et de l'Oumma islamique. Il a brisé le pouvoir de l'arrogance, a-t-il martelé. En Palestine, un exercice militaire a été organisé pour commémorer la mort en martyr de Qassem Soleimani, et cela dans une région où même une balle ne pouvait pas être tirée, a souligné encore le général Qahani. Le chemin que suivent la force Quds et la résistance ne change pas en raison des complots des États-Unis. Il se peut qu'on riposte à votre crime depuis chez vous, que s'est adressé en ces termes le général Rahani aux dirigeants américains. De son côté, le président du conseil exécutif du Hezbollah libanais, Sayed Hashem Safiuddin, a déclaré que l'axe de la résistance suivait le chemin de la délibération de la région des mains des occupants américains avec plus de fermeté après l'assassinat du général martyr Soleimani. Et le chef du pouvoir judiciaire iranien, l'ayatollah Ibrahim Raisi, a pour sa part déclaré que l'ennemi entendait faire monter au pouvoir dans Daesh pour ainsi désarmer la résistance, enflammer la région par ses complots et ses séditions. Le martyr Soleimani et ses compagnons de la force Quds n'ont pas permis la réalisation de ce plan, a souligné de l'ayatollah Raisi, et d'ajouter: l'idéologie de la résistance a nuit à l'arrogance. La résistance a fait basculer l'ennemi dans le désarroi, dont le signe flagrant est l'assassinat de Haj Qassem. Il faut que l'ennemi attende une vengeance dure. Ils verront notre vengeance dure, et ce qu'ils ont vu jusqu'ici n'était qu'une manifestation de vengeance. C'est l'Oumma islamique qui déterminera le temps et le lieu de cette vengeance. Il faut que l'ennemi sache que de sa vie sera désarmée, mais plus dur, et que la punition des auteurs de ce crime sera la manifestation d'une vengeance dure, a souligné encore l'ayatollah Raisi. Il a souligné que l'expulsion des Américains de la région constituera une vengeance pour le sang du martyr Soleimani.
Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat en ce vendredi 1er janvier 2021. Trois énormes explosions ont frappé mercredi l'aéroport international d'Aden au sud du Yémen, alors qu'un avion venant d'Arabie Saoudite était attendu avec à son bord les membres d'un soi-disant gouvernement soutenu par Riyad. Au moins 26 personnes ont été tuées et une cinquantaine d'autres blessées dans ces explosions. Évidemment, le tandem américano-israélien en a aussitôt accusé Ansar Allah, qui a rapidement démenti toute implication dans cette attaque qui marque une nouvelle fois l'impossible réconciliation entre deux frères ennemis que sont Riyad et Abu Dhabi. En réaction à ces explosions meurtrières, le porte-parole de la diplomatie iranienne a averti que la poursuite de l'occupation et de l'agression contre le Yémen était le principal facteur et la principale menace contre l'intégrité territoriale de ce pays. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur cette nouvelle évolution au Yémen, dans le sud de ce pays, et son impact sur la situation sur le terrain, en effet, mais aussi la situation humanitaire au Yémen. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Même Aden Riad n'a plus aucune assise. La spectaculaire attaque contre l'aéroport du port stratégique du sud du Yémen, qui donne droit sur le détroit de Bab el-Mandeb et que contrôle militairement et sécuritairement le pontin des Émirats et chef de conseil sudiste, le dénommé Ben Brek, vient de prouver que Riad et Abu Dhabi, MBS, MBZ, ne peuvent pas s'entendre. Sauf que l'impératif de l'axe US-Israël l'exige pour l'heure et que les deux hommes liges golfiens sont mille fois rien pour oser s'opposer au dictat de l'Empire. Au fait, l'attaque aurait visé à l'aéroport international d'Aden. Le ministre pro-Riyad, fraîchement tiré du chapeau de Ben Salman, et s'est prolongé encore le soir quand ces mêmes ministres, au nombre desquels ne figure curieusement pas le ministre de la Défense, se sont retrouvés en pleine réunion au palais présidentiel. Mis à travers eux, la cible aura été l'entité sioniste. Le mercredi 30 décembre s'est effondré à Aden l'un des piliers de l'accord dit d'Abraham que le dieu finissant Trump Pompeo tente de sauver des eaux troubles post-présidentiel US, pilier qui consiste à provoquer la scission du Yémen en deux entités nord-sud via un déplacement de la capitale Sana'a à Aden avec en perspective la transformation des ports stratégiques d'Aden, de Moucha et de Socotra en un méga complexe naval israélo-américain non loin du détroit stratégique de Bab el-Mandeb, du golfe d'Aden, de la mer Rouge et évidemment de l'océan Indien. Ceci étant, le coup semble avoir été fatal. Le président Pontin Hadi ayant déjà quitté Aden et ses ministres ayant promis ne plus rester que pour 4 semaines, histoire de ne pas perdre la face. Évidemment, le nerviste des Émirats Ben Brek, gouverneur d'Aden, se réjouit d'avoir à se débarrasser d'un gouvernement dont seuls 5 portefeuilles sur 24 revenaient à lui et à ses clans, n'empêche que c'est une joie bien inquiète. En juin 2020, Israël Hayom se félicitait qu'un gouvernement pro-Israël venait de voir le jour à vie clos au sud du Yémen, un gouvernement dont la tête Ben Brek n'hésiterait pas de s'inspirer de l'exemple des Sud-Soudanais d'ici quelque temps. Mais depuis 30 décembre, le pari s'avère bien hasardeux. Certains observateurs y voient une claire allusion aux surprises que cacheraient les fonds marins du détroit stratégique de Bab el-Mandeb, lesquels ne permettront jamais aux USA et à Israël et à leurs acolytes de les occuper. Déjà, les eaux territoriales saoudiennes ne sont plus sûres. Celle du Yémen ne le sera pas non plus pour Tel Aviv.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité pour cette émission. Nous avons le plaisir d'accueillir depuis Bruxelles M. Luc Michel, géopoliticien, et depuis Paris M. Philippe Hugon, reporter de guerre et journaliste. Monsieur Hugon, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Je vous en prie. Bonjour à toute l'équipe. Bonne année également. Et bonjour à Luc Michel.
Nous aussi, nous vous souhaitons, je vous souhaite, au nom de toute l'équipe de Presse TV français, une très bonne année, monsieur Hugon.
Merci à vous.
Quel premier regard, monsieur Hugon, portez-vous sur ces explosions, ces énormes explosions qui ont frappé mercredi l'aéroport international d'Aden? À qui profiteraient justement ces explosions?
Oh ben, alors c'est un petit peu complexe de pouvoir répondre d'une façon précise du fait que ces attentats sont extrêmement récents. Ce qu'il y a de sûr, c'est que l'Arabie Saoudite mène une politique extrêmement dure vis-à-vis du Yémen et vis-à-vis des Yéménites. Donc il faut bien s'attendre à ce qu'il y ait tôt ou tard des actions de réaction envers ces ces attaques que portent l'Arabie Saoudite et les Américains depuis pas mal de temps maintenant au Yémen. Donc il est clair que les raisons de tout cela, vous savez, c'est toujours la même chose, ce sont pour des raisons économiques, hein. Vous savez que les puits de pétrole saoudiens s'assèchent tout doucement, le niveau baisse, comme on a l'habitude de le dire, et on a découvert au Yémen d'énormes réserves pétrolières et gazières dans le golfe d'Aden. Donc il est clair que si les Saoudiens provoquent d'une façon aussi permanente le Yémen, c'est simplement pour mettre la main sur des ressources naturelles très importantes. Donc il est clair qu'aujourd'hui, on va assister à des attentats, ou du moins à des actes de répression de la part de la résistance yéménite envers les Saoudiens. Et il faut bien savoir que les Américains, l'Arabie Saoudite et Israël marchent main dans la main dans ce dossier, hein. Donc l'Arabie Saoudite, c'est une dynastie de gens extrêmement corrompus et qui se moquent depuis très très longtemps de la religion musulmane et de l'islam, puisqu'ils collaborent avec Israël, avec les Américains depuis très longtemps. C'est la seule façon qu'ils ont trouvé de rester en place, hein, au niveau de leur monarchie, parce qu'ils tiennent exclusivement parce que les Américains sont là pour les protéger. Donc il est temps que les choses changent, et malheureusement ça risque de durer encore quelques années avant qu'on retrouve une situation un peu plus normale.
Merci pour ces précisions, Monsieur Hugon. Restez avec nous, s'il vous plaît. On va tout de suite rejoindre à Bruxelles Luc Michel, géopoliticien. Monsieur Michel, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Et nous vous souhaitons une très bonne année 2021.
Bonjour à vous, mes bons voeux à votre équipe et à vos téléspectateurs. Je l'ai dit, 2020 a été une année horrible pour tout le monde. Souhaitons que 2021 soit meilleur, et je présente mes bons voeux à Monsieur Hugon.
C'est aussi notre souhait, monsieur Michel. Monsieur Michel, concernant les explosions d'Aden, alors pour certains observateurs, il s'agirait d'un règlement de compte entre les occupants saoudiens et émiratis et leurs mercenaires. Est-ce que cela pourrait démontrer en effet cette impossible réconciliation, comme je le disais en début de cette émission, entre ses frères ennemis, à savoir Riyad et Abu Dhabi?
C'est mon opinion. On ne comprend rien si on écoute évidemment les commentaires qui accusent par Allah, l'Iran, etc. La guerre du Yémen, c'est la seconde guerre du Proche-Orient après la Syrie, et c'est un conflit régional qui s'est internationalisé. Il y a tout d'abord les parrains de cette guerre, ce sont les Américains. Ils sont là à la recherche de zones de position de force géopolitique. Leur but, c'est lié à la volonté de contrôle des voies maritimes du golfe de Guinée, et il s'agit de contrôler à la fois le détroit d'Oman et le détroit de Bab el-Mandeb. On se rappellera que le contrôle du golfe de Guinée, il est assuré par la 5e flotte américaine du Bahreïn, et que ce qui est appliqué là-bas, il faut prendre une carte pour comprendre, c'est ce qui a été appliqué en Somalie. Les Américains n'ont pas été capables de contrôler le territoire somalien. On se souvient en 1993 de la fameuse défaite de Mogadiscio, qui est célébrée par le film La chute du faucon noir. Et depuis, ils appliquent la géostratégie du chaos. C'est le même programme qui est en route, bien entendu, au Yémen. Derrière ça, il y a les appétits de deux puissances proche-orientales, des monarchies réactionnaires, c'est l'Arabie Saoudite et les Émiratis. Lorsque commence la guerre du Yémen, les Émiratis sont alliés étroitement aux Saoudiens, mais alors que l'Arabie Saoudite s'enfonce dans la guerre du Yémen, qui est une guerre perdue par avance, eh bien, les Émiratis, eux, se structurent et émergent comme une grande puissance maritime et militaire. On ne comprend pas ce qu'étaient les Émiratis il y a quelques années et ce qu'ils sont aujourd'hui. C'était le pays du soft power, c'était le pays de choses comme ça. Aujourd'hui, c'est une grande puissance militaire. Les Émiratis, en 2020, ont monopolisé la 4e défense mondiale en matière d'armement. Il y a des flottes Émiratis, c'est une puissance maritime, qui mène la guerre en Libye, au Yémen, du golfe de Sirte jusqu'au golfe d'Aden. Leur allié principal, c'est Paris. Il y a un axe maritime, Paris-Émirati, et c'est un axe qui s'est constitué au fur et à mesure que les Français prenaient leur distance ou que les Américains prenaient leur distance avec Paris. Ils contrôlent la mer Rouge, ils ont des prétentions à contrôler le golfe Persique, avec l'aide des marines allemandes notamment et italiennes. Et donc, ce qui est ressorti de tout ça, c'est une rivalité. Les Saoudiens n'admettant pas la montée en puissance comme puissance régionale des Émiratis. Et on peut résumer ça par MBS comme MBZ, c'est-à-dire Ben Salman contre Ben Zayed. Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? C'est que la stratégie employée par les deux capitales, par Riyad et par les Émiratis, elle a divergé profondément depuis 2 ans. Riyad tente, il a imposé un gouvernement fantoche, c'est-à-dire qui est le gouvernement du président Abdi, qui est un pro-saoudien. Le problème, c'est que le pays est divisé. Il y a toute une partie au sud du pays qui est aux mains des Houthis. Les Houthis, c'est le prétexte. Ce sont des populations chiites proches et soutenues par l'Iran, et c'est le prétexte de la guerre. Mais la véritable réalité, c'est pour les Américains les positions géopolitiques et pour les Saoudiens le pétrole. Et de l'autre côté, il y a aussi des positions qui sont détenues par Al-Qaïda sur la péninsule arabique, qui ont des zones autonomes un peu comme partout. Les Émiratis, par contre, ils ont une autre stratégie. Ils ont constaté la difficulté d'intervenir au sol. Ça a été la différence entre les Saoudiens et les Émiratis. Les Émiratis ont envoyé leur armée, qui est une armée puissante, notamment leur blindé. Les Saoudiens, eux, ont sacrifié en achetant des soldats soudanais pour faire la guerre à leur place. Aujourd'hui, quelle est la situation? Bien entendu, les Émiratis se sont retirés militairement. Ils favorisent dans le sud essentiellement à la constitution d'une armée, et leur but, c'est de réactiver la sécession du sud Yémen. Vous savez que dans les années 60, il y avait 2 Yémen, sud Yémen et nord Yémen, qui se sont réunifiés à partir de 1990. Et aujourd'hui, les Émiratis soutiennent un mouvement sécessionniste qui arbore l'ancien drapeau du sud Yémen. Et les forces émiraties arborent à la fois le drapeau émirati et le drapeau sécessionniste. Les Saoudiens ne peuvent pas admettre ça parce que ça fragilise essentiellement le gouvernement Abi. Enfin, il y a un nouveau larron dans cette histoire. Vous savez que Abu Dhabi, maintenant, c'est le principal allié d'Israël. Et les Émiratis sont rentrés là-bas avec un enthousiasme qui contraste d'ailleurs avec les Saoudiens qui craignent les pieds dans cette alliance. Et à partir de ce moment-là, il y a une espèce d'acte, non plus Paris-Abu Dhabi, mais Paris-Abu Dhabi-Tel Aviv, qui a des ambitions géopolitiques divergentes, évidemment, des agendas américains et saoudiens. On ne comprend pas ce qui vient de se passer si on ne comprend pas ça. Il y a probablement une guerre de basse intensité qui se déroule entre les Saoudiens et les Émiratis qui expliquent cette affaire. Mais une fois de plus, on va faire porter le chapeau à l'Iran, évidemment. C'est ce qui se passe dès qu'une bombe explose au Proche-Orient, où on sait qu'une grande partie du terrorisme est un terrorisme qui n'est pas proche-oriental, qui est un terrorisme d'État. On voit l'Iran accusé, c'est comme eux, mais ce n'est pas la réalité.
Merci encore, M. Hugon. Une toute dernière question à M. Michel. M. Michel, vous avez évoqué tout à l'heure cette question de normalisation des relations entre les Émirats arabes unis et Israël. Concernant la situation au Yémen, notamment dans le sud de ce pays, quels seraient les projets du régime israélien, les projets latents et patents du régime sioniste dans cette espèce de chaos, comme disait M. Hugon?
Et Israël vise, comme les Américains, à exacerber les choses. Plus la situation est chaotique, plus elle rapporte à eux. Mais je voudrais encore vous donner une précision. Dans ce chaos yéménite, il y a en plus une guerre idéologique. Et une guerre idéologique qui fait que cette guerre, elle va du golfe de Sirtanui jusque le golfe d'Aden. C'est-à-dire que les Émiratis, ce sont les ennemis jurés des frères musulmans, et frères musulmans qui sont soutenus par les Turcs et leurs alliés qataris. Vous vous souvenez que les Émiratis et les Saoudiens, une fois d'accord, avaient proclamé un blocus du Qatar. Al Jazeera, la chaîne qatari, jette de l'huile sur le feu. Et les Émiratis se sont lancés dans une stratégie dangereuse qui explique d'ailleurs les incidents peut-être qui viennent d'avoir lieu en Arabie Saoudite. C'est-à-dire qu'ils se sont alliés contre les frères musulmans à des milices radicales salafistes et ils se sont alliés à des éléments terroristes, donc que vous appelez vos tafkiris, que nous appelons nous en Occident, d'un terme que vous n'avez pas djihadiste. Et donc la guerre que mènent les Émiratis contre les frères musulmans, elle va de la Libye. C'est pour ça que les Turcs sont intervenus en Libye. Les Émiratis sont alliés à Haftar contre Tripoli. Et évidemment, ils ont déplacé leur guerre également au Yémen. Il y a donc cette grande guerre idéologique qui divise les extrémistes musulmans, c'est-à-dire que tous sont au départ des Wahhabis. Et la guerre, la rupture géopolitique entre Riyad et Abu Dhabi, elle se double d'une rupture idéologique entre les frères musulmans et les salafis. Cela complique les choses, et évidemment, le grand gagnant de ça, c'est Israël. Israël qui voit d'un très bon œil maintenir une guerre au Yémen, qui voit des fractions yéménites importantes se fractionner, qui voit en fait une somalisation du Yémen. Le Yémen va à terme avec trois autres différentes. Il faut se rappeler ce qu'a été la Somalie, le laboratoire américain de la géostratégie du chaos. C'était l'État le plus puissant de la Corne de l'Afrique. C'était le maréchal Siad Barre, allié de l'Union soviétique. Qu'est-ce que c'était depuis maintenant 25 ans, la Somalie? C'est un État, un non-État. Le gouvernement siège à l'étranger, il contrôle maintenant sa capitale. Et des zones entières ont fait sécession, ont formé ce qu'on appelle des États de facto, des États complets avec parlement, armée, administration, mais non reconnu en même temps. Il y a le Puntland, il y a le Somaliland, il y a le Jubaland qui a fait sécession il y a seulement deux mois, parce que c'est pas terminé. Et au milieu de tout ça, il y a la guerre pour l'acquisition des... Il y a eu une guerre entre les Saoudiens et les Émiratis et les Turcs pour l'acquisition des ports de la Somalie et de la mer Rouge qui se déroule sur le Yémen, puisque les Émiratis qui contrôlent certains ports face aux Turcs et face également donc à l'Arabie Saoudite qui contrôle quasiment tous les ports du Yémen maintenant. C'est comme ça qu'ils sont devenus grande puissance politique, ce qu'on appelle en géopolitique une thalassocratie. Il faut comprendre toute cette situation et voir que le chaos profite évidemment aux puissances étrangères qui agitent là-bas, au détriment de tous les peuples qui sont là-bas. Une dernière chose, si vous souligniez un acteur, c'est que c'est ce qui va apparaître en 2021, c'est que les Russes sont maintenant arrivés dans la Russie, qu'ils ont signé des accords malgré le changement de régime à Kherson. Ils ont encore des liens avec les généraux soudanais qui sont opposés aux civils pro-américains. Il va donc avoir une base militaire et navale russe au Soudan. Il va avoir une seconde base navale et militaire russe en Érythrée, qui est le plan B de la Russie au cas où le Soudan se révèle la mafia. Ça va changer la donne complètement.
Merci,
parce que
Michel.
Les Russes vont appuyer dans la côte de l'Afrique la révolution géopolitique de l'Éthiopie, de l'Érythrée et de Djibouti face à toutes ces puissances extérieures qui ont cru qu'elles pouvaient coloniser la mer.
Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, et Philippe Hugon, journaliste depuis Paris, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu apporter ces éclairages à cette émission. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Le Mazandaran, en raison de sa belle et généreuse nature, de ses cascades, ses forêts et de sa proximité avec Téhéran, est très visité. Céréales, fruits, coton, thé, tabac, canne à sucre et soie figurent parmi les produits naturels cultivés du Mazandaran. Le Mazandaran, très présent dans la mythologie et la littérature iranienne, et trouve naturellement une place de choix dans le Shahnameh, épopée écrite par le poète Ferdowsi il y a plus d'un millénaire, et le village de Yush, où naquit le poète iranien contemporain Nima Yushic. Des conditions climatiques favorables, de magnifiques paysages et la proximité de Téhéran ont fait le Mazandaran l'une des principales régions touristiques d'Iran. Le Mazandaran est appelé le paradis perdu par les amoureux de la nature. Parole d'expert.
Comment Israël manipule et censure la presse française? Depuis fort longtemps, Israël s'insère directement dans les affaires des médias en France. Une grosse partie de la presse orale et écrite est d'ailleurs la propriété des lobbies sionistes en France. Mais de là à vouloir empêcher une radio publique de parler de la scandaleuse discrimination qui règne dans les prisons d'Israël à l'égard des détenus palestiniens privés de tout, y compris du vaccin anti-Covid, c'est un pas tout nouveau que l'ambassade d'Israël en France vient de franchir à la faveur d'une présidence Macron qui use et abuse de son pouvoir pour empêcher toute critique contre le sionisme en le présentant sous le faux jour de l'antisémitisme. L'ambassade d'Israël en France a qualifié mardi 29 décembre de mensonge et de contre-vérité un article de France Inter qui, se référant aux informations parues initialement dans le quotidien Haaretz, avait dénoncé la veille le ministre israélien de la Sécurité publique Amir Ohana d'avoir donné pour instruction à l'ensemble du système carcéral du pays de ne pas vacciner les prisonniers de haute sécurité, soit des détenus palestiniens.
Oui, eh bien, l'influence sioniste en France a été remarquée dans les mémoires du général de Gaulle et que j'ai eu l'honneur, que j'ai eu l'honneur à titre de bibliothécaire de servir en 1970-71, puisque j'ai aidé à rédiger des mémoires qui ont été éditées chez Plon, l'éditeur Plon, sous le nom de Pour l'avenir, qui comprenait justement le discours du général de Gaulle sur la Palestine et d'autres sujets, et qui ensuite ont été réédités, n'est-ce pas, en omettant, bien sûr, de traiter de la Palestine. Eh bien, là-dedans, même dans ses mémoires, que De Gaulle avait approuvé, il avait dit d'ailleurs, que son père était aussi professeur de philosophie, eh bien, je dis ça pour l'histoire, c'est pour pouvoir dire comment je m'étais attaché à cette lecture autrefois, eh bien, De Gaulle dit nettement que la 4e République subit une influence sioniste jusqu'au ministère de la guerre, jusqu'au ministère des armées. Et il donne des exemples, il donne des noms connus. C'était le cas aussi par exemple en Espagne, par exemple après la mort de Franco, que lequel n'avait jamais reconnu l'entité sioniste, il faut le dire, c'est González, son successeur, qui l'a reconnu, qui était socialiste. Eh bien, cette influence avait baissé, elle avait diminué, quelles que soient les relations bonnes qu'il avait avec Ben Gurion et autres. Mais ensuite, quand M. Mitterrand est venu au pouvoir, il y a eu un voyage de Mitterrand à la Knesset, et lequel ce voyage est peu connu. Et au cours de ce voyage, au cours de cette allocution à l'Assemblée israélienne sioniste, M. Mitterrand s'est excusé, a demandé pardon pour la politique de la France, voyez-vous. C'est-à-dire qu'il a dit que la France avait commis une faute, n'est-ce pas, en ne soutenant pas suffisamment Israël. Et il a fallu attendre, voyez-vous, le retour d'un parti socialiste pour pouvoir faire cela. Et cette influence est très importante. Elle est importante dans tous les milieux, y compris malheureusement dans les milieux de droite, dans les milieux conservateurs, à cause de la grande propagande aujourd'hui qui est anti-musulmane, qui se fait en France, en profitant bien sûr des heurts entre immigrés, surtout jeunes immigrés, et Français. Voyez-vous, tout ceci est une machine infernale, et l'entité sioniste, au lieu pour pouvoir tirer profit de cette situation, en apparaissant comme victime. Et par exemple, dans l'histoire de ces vaccins, par exemple, dont a parlé France Inter, eh bien, l'entité sioniste dit que c'est une forme d'antisémitisme, c'est le mot qui est employé ici, chaque fois que l'on attaque, évidemment, la politique de l'État d'Israël. Et de ce point de vue, beaucoup de juifs en France, j'ai connu, moi j'ai eu des professeurs juifs à la Sorbonne, Dreyfus Foyer en particulier, qui était excellent, plutôt en préparation de lettres, et ils étaient eux-mêmes, disons, ils se sentaient eux-mêmes écrasés, disons, par cette influence israélienne qu'ils n'admettaient pas. Et bien sûr, aujourd'hui, les juifs de France, voyez-vous, courbent la tête devant cette organisation et n'osent pas plus que les Français. Chrétiens, par exemple, ou les Français musulmans, n'osent, disons, critiquer ouvertement l'entité sioniste. Les prêtres non plus, voyez-vous, ils agissent par la terreur, par le chantage, et ils saisissent n'importe quel argument, n'importe quel fait, pardon, pour pouvoir dire qu'ils sont attaqués, qu'ils sont calomniés, qu'ils ne sont pas compris. Alors, cet dernier exemple, par exemple, vous savez, il y avait un programme dans les prisons israéliennes qui a dit que les gardiens seraient vaccinés, par exemple, contre ce qu'on appelle le Covid, avant les prisonniers. Bon, il est possible que ce soit un règlement de cet ordre, qu'il n'ait pas assez de vaccins, etc. Mais voyez, la situation s'est envenimée au point que cela donne l'occasion, voyez-vous, à l'entité sioniste qui est hyper armée d'apparaître comme, victime d'un complot international, de l'antisémitisme, maladif, continu, venant de la société chrétienne ou de la société musulmane. Et je crois que ceci durera, je me permets de le dire, jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que, vous savez, quand un enfant, par exemple, ment, eh bien, il poursuit son mensonge pour ne pas que les parents s'en aperçoivent. Il lui donne une certaine cohérence. Mais ceci ne dure pas, bien sûr. La vérité l'emporte toujours. Et nous savons qu'elle l'emportera, même au prix de très grands sacrifices, car nous devons nous attendre, bien sûr, dans ces conditions, à passer, disons, des moments très difficiles, non seulement, bien sûr, en Palestine et ailleurs, donc sur les lieux de conflit, mais également dans nos sociétés civiles qui sont soumises à un chantage permanent, voyez-vous, de la part d'aventuriers qui ne vivent pas sur leur propre force, mais sur la pression qu'ils font auprès d'autres pays et puissances qu'ils appellent à les soutenir. En particulier, l'Allemagne, chez nous, est une véritable vache à lait, de ce point de vue, pour l'économie israélienne.
Une dictature militaire aux États-Unis est-elle possible? Pourquoi pas, vu que le pays vit de la rente des guerres? L'enseignement aux États-Unis contribue au coup d'État et à la formation de régimes répressifs. C'est l'intitulé de l'article publié sur le site italien Inside Over, qui est consacré à la formation de cadres militaires étrangers par les Américains pour s'ingérer dans les affaires intérieures d'autres pays. Entre 1999 et 2016, 2,4 millions d'étudiants ont participé au programme de formation américain. Presque 20 milliards de dollars ont été dépensés à cet effet. Il s'agit avant tout du programme gouvernemental « L'éducation et la formation militaire internationale » IMET, et ce programme a été lancé par l'administration de Gerald Ford en 1976. Il couvrait initialement 42 pays, dont le nombre a augmenté jusqu'à 122 40 ans plus tard. À l'heure actuelle, dans le cadre de l'IMET, les Américains forment des militaires de 155 pays, même aussi petits que Tuvalu, avec 11 000 habitants. À cette formation participent près de 150 universités et écoles militaires américaines associées au département américain de la défense. Dans certains cas, la formation se déroule dans les pays dont les élèves sont originaires. Hormis la formation militaire, les instructeurs inculquent aux étudiants les valeurs démocratiques. Le département américain affirme que dans le cadre du programme IMET sont formés des leaders. La formation dans le cadre de l'IMET se déroule sur quatre axes. L'enseignement militaire, l'étude approfondie de l'anglais, la formation technique, la formation au commandement. Sachant que l'enseignement militaire ne représente que la moitié du coût du programme. À travers les écoles militaires américaines, la soft power des États-Unis pénètre dans d'autres pays, cultive la loyauté envers l'Amérique, crée un potentiel pour recruter des agents pour leur enseignement. Ainsi, parmi les participants au coup d'État au Mali du 18 août 2020, plusieurs avaient suivi une formation aux États-Unis, dont Assimi Goïta, colonel de l'armée malienne, d'abord président du Comité national pour le salut du peuple du Mali, puis vice-président. D'ailleurs, ce pays est dirigé depuis longtemps par des diplômés d'écoles militaires américaines. L'Égypte est dirigée par Abdel Fattah al-Sissi, qui a été formé au Royaume-Uni et aux États-Unis. Parmi les acteurs du coup d'État raté en Turquie, plusieurs officiers avaient également suivi une formation militaire aux États-Unis. Les États-Unis sont particulièrement actifs en termes de formation de militaires en Amérique latine, en Asie du Sud-Est et en Afrique. Ainsi, les États-Unis forment des officiers de 45 des 54 pays du continent africain. Le Mali, le Tchad, le Nigeria et le Niger bénéficient d'une attention particulière des États-Unis. Selon Jess Dillon Savage de l'Université de Melbourne et Jonathan Caverley du MIT, plusieurs programmes américains de formation militaire visent à créer les conditions pour organiser éventuellement des coups d'État. Benjamin Kenzer, chercheur en relations internationales à l'Université de l'Ohio, a analysé des programmes américains pour former des policiers à travers le monde et il a découvert que dans plusieurs cas, ils ont entraîné une militarisation des structures étatiques dans les pays dont les étudiants étaient originaires. En 2001, les dépenses pour ces programmes avoisinaient 5 millions de dollars, alors que 146 millions de dollars ont été dépensés pour la formation de policiers étrangers en 2018. Ces programmes existent dans plus de 90 pays d'Amérique latine, d'Afrique du Nord et d'Asie du Sud-Est. Des cadres policiers de Hong Kong et de Birmanie sont également formés aux États-Unis. Outre la formation de militaires et de policiers, il existe la formation dans le cadre du Foreign Military Sales, donc la vente d'armes à l'étranger, aux frais de l'acheteur d'armement américain. Il existe aussi des programmes à part pour l'Afghanistan, pour la lutte contre le trafic de stupéfiants, l'enseignement dans le cadre du Foreign Military Financing, donc le financement militaire étranger, et d'autres programmes spéciaux. La formation des spécialistes militaires étrangers est un instrument important du soft power américain. Et les États-Unis n'ont jamais négligé les instruments militaires du soft power. Selon le site américain Alternet, les États-Unis ont organisé au moins 80 coups d'État réussis ou ratés à l'étranger. Tout a commencé quand le président Eisenhower a découvert, avec l'exemple de l'Iran, que la CIA pouvait renverser des gouvernements qui refusaient de sacrifier l'avenir de leur peuple au profit des intérêts commerciaux et géopolitiques de l'Occident. La plupart des coups d'État américains ont entraîné de violentes répressions, des kidnappings, des exécutions sommaires, des tortures, la corruption, une terrible pauvreté et inégalité, ainsi qu'un effondrement des aspirations démocratiques des peuples touchés par de tels coups d'État. Ceci étant, cette politique militariste commence à battre de l'aile. L'exemple iranien l'illustre à merveille, un Iran qui a brisé l'aura militaire américain dans la région.